Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir David Mahé, le président de la commission stratégie et management de Syntec Conseil et fondateur du groupe Human & Work, le groupe européen de conseil leader de l'humain au travail. Vaste sujet, je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Merci.
C'est des sujets qu'on n'aborde pas si souvent, puisqu'on est très... C'est vrai que je me rends compte que j'ai un petit biais sur l'environnement toujours, mais c'est tellement important de parler de l'humain. Écoute, parle-moi de ton métier, du groupe que tu as fondé.
Alors, j'ai créé ce groupe en 2016 avec l'idée d'aider les entreprises par des expertises pointues à prendre soin des gens et des organisations. En gros, sur l'aspect RSE ou impact, on est sur l'aspect social. Et en particulier, on s'est intéressé à des sujets comme la santé mentale, comme la diversité et l'inclusion, comme la question de l'emploi et des carrières, ou la question du talent, tout simplement, dans les entreprises. Et donc, l'idée, c'est de fédérer dans ce projet à la fois les meilleures expertises sur ces sujets, sur lesquels l'entreprise a un impact et peut avoir un impact encore meilleur au niveau social, au niveau sociétal.
C'est assez intéressant parce que tu me parles de trois grands piliers. Donc, tu me parlais de santé mentale, d'inclusion, de handicap. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, justement, n'hésite pas à me le dire, que la santé mentale, c'est assez récent. Il y a eu une explosion au moment du Covid, justement, de cette prise de conscience que l'entreprise avait un rôle à jouer. L'handicap, bien sûr, c'est toujours pas assez, et ce le sera jamais, mais il y avait déjà un peu plus d'engagement du côté des entreprises là-dessus, idem pour l'inclusion. J'ai envie qu'on commence par la santé mentale. Est-ce que déjà toutes les entreprises y prêtent attention ou c'est vraiment assez novateur?
Alors, d'une façon ou d'une autre, l'entreprise s'y intéresse, pas toujours pour de bonnes raisons.
Mais productivité, rentabilité...
Ou parfois même parce que, tout simplement, ils sont obligés. Ça peut être une bonne raison, déjà, d'appliquer la loi, de s'engager sur la santé de leurs collaborateurs, de prévenir les risques psychosociaux, de développer de la compétence autour de la santé au travail ou de développer des services qui facilitent la vie des gens. Mais vous avez aussi des entreprises qui viennent par de la crise, par des événements extrêmement graves, par des décès, par des conflits, par des gens qui n'arrivent plus à travailler ensemble et qui bloquent l'activité de l'entreprise. Et puis enfin, vous avez des patrons parfois très, très, très visionnaires ou très motivés qui pensent que prendre soin des gens, c'est plutôt une bonne idée.
Et tu me parlais de législation en matière de santé mentale, je la connais pas. Est-ce que tu peux me donner la dernière, on va dire, la mise à...
Disons que le chapelet réglementaire autour de la santé mentale, il s'est enrichi au fur et à mesure des années, depuis finalement les années 2000, en France, on a connu ces sujets-là par des drames. Dans les entreprises, on appelait les suicides de France Télécom. Ouais. Donc, il y a eu un chapelet réglementaire d'abord sur la prévention du harcèlement, sur tout ce qui était l'obligation finalement de prévenir les risques psychosociaux, d'évaluer ces risques psychosociaux et de mettre en place des politiques. Certains ont appelé ça des politiques de prévention, d'autres ont appelé ça des politiques du bien-être au travail. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même des obligations à la fois de moyens, mais aussi de résultats en matière de santé au travail.
Oui, là, tu me parlais de bien-être au travail. Il y a même des responsables QVT maintenant. Donc, voilà. C'est vraiment des postes qui se créent. Alors, je ne connais pas bien ces fonctions. OK, alors, pour la santé mentale, très bien. Concrètement, est-ce qu'il y a du résultat?
Alors, oui, il y a des résultats. Il y a des résultats parce que déjà, on gère des situations délétères. Et ces situations, il faut les traiter. Quand vous avez des gens qui sont en mauvaise santé, c'est important que l'entreprise mette en place les bons dispositifs pour prendre soin des gens et les aider à bien travailler. D'autre part, vous avez des organisations qui produisent du bien-être et d'autres qui produisent du mal-être.
Du burn-out. Oui. On en parle beaucoup de burn-out. Exactement. Et de plus en plus, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été... Enfin, je pense que le burn-out a toujours existé, mais qu'on n'a pas toujours mis les bons mots dessus. Ça va être compliqué pour une entreprise de gérer un burn-out quand même.
Alors, on peut déjà travailler en amont pour qu'il y en ait moins. Bon, c'est quand même ça l'essentiel de notre travail. Et dans un pays comme la France, où on consacre beaucoup plus d'argent à soigner qu'à prévenir, notre rôle en entreprise, c'est plutôt d'aider l'entreprise à prévenir ces problèmes. C'est les questions de charge mentale, c'est les questions d'organisation du travail, c'est les questions de pratiques de comportement professionnel qu'on essaye d'encourager pour tout simplement que l'organisation du travail et le management du travail soient pertinents, soient sains et soient efficaces.
Et pour parler du handicap, justement, moi, je vois encore des choses absolument hallucinantes, comme les accès aux toilettes pas respectés. Enfin, il y a vraiment de grosses réglementations en matière d'handicap. Mais comment l'entreprise, elle peut carrément prendre et s'approprier ce sujet pour pas en faire, comme tu le disais, un quota. Voilà, il me faut un quota de personnes qui souffrent d'un handicap. En plus, il y a des handicaps cachés, hein. La santé, c'est quelque chose qui peut être très caché. Il y a plein de maladies. Donc, c'est compliqué de dire à quelqu'un, maintenant, tu n'as pas de handicap. Enfin, c'est très, très compliqué, en fait, c'est mettre des étiquettes. Comment l'entreprise peut au mieux gérer ces situations, finalement?
Alors, depuis de nombreuses décennies, l'organisation de la gestion du handicap en entreprise, ça a été effectivement d'avoir un pourcentage de salariés en situation de handicap ou à défaut de payer des amendes, finalement, quand on n'en a pas. Donc, c'était essentiellement une gestion de flux financier pour permettre de financer l'accès à l'emploi des handicapés. Là, aujourd'hui, on est dans une étape un peu différente où on essaye de rendre l'entreprise plus inclusive et donc de transformer les pratiques professionnelles, la vie des équipes, pour inclure des personnes qui sont en situation de handicap ou même plus globalement en situation de fragilité.
On peut même leur créer des postes, j'imagine, des postes dédiés.
Oui, et on peut aussi imaginer un travail un petit peu différent où on n'est pas forcément sur une performance individuelle survalorisée, mais plutôt sur la recherche d'une performance collective avec des gens en situation de handicap et d'autres qui sont en situation de non-handicap.
Puis j'imagine que cette inclusion au sein d'une équipe et justement pas cette exclusion de les laisser dans leur coin, etc., ça doit aussi leur permettre une meilleure santé mentale.
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un sujet qui me passionne actuellement, sur lequel je rame un petit peu, dans le désert, comme on dit. C'est la question du handicap psychique.
C'est, par exemple, c'est quoi?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une grippe, vous allez vers votre médecin, il vous arrête, et puis vous revenez au travail. Par contre, quand vous avez un handicap physique, vous constatez que vous êtes en incapacité de faire ceci ou cela, vous avez une démarche qui fait que vous devenez déclaré, entre guillemets, handicapé. Et pour la question du handicap psychique, il y a un vrai tabou. Et
par exemple, la bipolarité, ce serait un handicap psychique? Ou j'essaie de mettre des mots.
C'est tout simplement des maladies psychiques qui rendent votre pratique professionnelle plus compliquée. Et en France, on a très peu de handicapés psychiques, alors qu'on a des millions de Français travailleurs qui ont une maladie psychique. On a 3 millions de dépressifs en France, par exemple.
Oui, ça, c'est une vraie maladie. Mais par exemple, alors moi, pour être tout à fait transparente et j'assume complètement mon trouble, j'ai un TDAH. Est-ce que c'est considéré, alors ça dépend, je pense, après du degré, comme une maladie psychique?
Il y a deux choses. Il y a la maladie psychique et ensuite la déclaration du handicap. Est-ce que la maladie psychique t'empêche ou pas d'exercer ton métier dans des conditions non adaptées, finalement, à ce handicap? On a des situations aujourd'hui où on doit nommer correctement des troubles et puis ensuite oser assumer un handicap en entreprise. On a eu l'exemple tout récemment d'Arthur Sadoun de Publicis qui a parlé finalement de sa maladie, le cancer, et de sa vie en entreprise en ayant le cancer. Bon, il a fait progresser probablement les esprits, mais ça illustre bien le fait qu'aujourd'hui, quand on est malade, on est en dehors de l'entreprise et l'entreprise ne fait pas beaucoup d'efforts pour finalement accueillir cette fragilité par le handicap, par l'accueil finalement de professionnels qui sont ponctuellement ou durablement en situation de fragilité.
Mais est-ce que finalement, il y a encore des entreprises qui arrivent à s'en extraire de ces obligations finalement? En fait, une entreprise doit, par son essence même, je te dis ça, mais j'ai l'impression que ce serait dans mon monde de bisounours, être complètement éthique et justement, au-delà de produire des ressources, prendre soin de ces ressources aussi.
Alors, oui, on peut dire qu'une entreprise doit être éthique et doit prendre soin des gens. Après, moi, je n'impose pas à tout le monde de penser de manière excellente, irréprochable, etc. L'important, je pense, c'est que l'entreprise fasse des choses pour que l'impact social soit favorable. Et puis
l'impact économique le sera aussi. De toute façon, même, c'est comme pour l'environnement. Celles qui agissent, qui mettent en place ou qui innovent pour prendre soin de l'environnement juste à des fins de gains d'argent. Et pareil, si ça leur permet de faire des économies, mais que ça ne part pas d'une dynamique très éthique, peu importe, le résultat est là.
Ouais. Moi, j'ai coutume de dire, peu importe la motivation des entreprises, l'important, c'est qu'ils fassent des choses. Je préfère une entreprise qui est inclusive avec des gens qui n'en ont rien à faire qu'une entreprise qui n'est pas inclusive avec des gens qui claironnent partout, qui sont éthiques, responsables, etc.
Mais je pense que quand on est employé quand même au sein d'une entreprise qui ne respire pas l'éthique, ça se ressent quand même sur le bien-être du salarié. C'est-à-dire que si les motivations ne sont pas les bonnes, on le ressent, il faut arrêter de...
Je pense que le vrai bénéfice de l'entreprise, c'est quand on est cohérent entre ce qu'on affiche et ce qu'on fait. Effectivement, on nourrit le sens du travail, on nourrit la motivation des collaborateurs, on nourrit finalement la fierté d'appartenance et on nourrit l'énergie disponible pour les salariés pour travailler. Et je pense que c'est là que finalement est l'enjeu principal, c'est-à-dire à la fois avoir une intention qui soit ambitieuse, une volonté d'impact, mais aussi d'avoir de donner les moyens, faire des efforts pour faire des choses. Et l'impact social, c'est ça aussi. C'est un métier qui est assez peu normé, finalement, le social. Vous avez des lois, vous avez quelques bonnes pratiques, mais finalement, tout est à inventer. Et c'est là où on a aujourd'hui un challenge, finalement. C'est comment évaluer l'impact social d'une entreprise. La moindre des choses, c'est de respecter la loi. Mais derrière, il y a évidemment des sujets de maturité, des sujets d'innovation, des sujets aussi pour oser faire des choses pour bien s'occuper des gens, tout simplement.
Et toi, c'est quoi tes prochains challenges, du coup? Parce que tu es quand même un homme multicasquette. Donc, tu restes quand même avec cette ligne directrice, cette cohérence. C'est quoi, du coup, tes prochains challenges?
Alors, moi, je pense qu'on est au début de l'histoire pour la prise de conscience du phénomène de la santé mentale. Donc, il y a quand même beaucoup encore à faire pour que l'entreprise soit un lieu qui produit de la santé mentale pour le compte de la société en général et pour des salariés en particulier. Ça, c'est un sujet important. Il y a un sujet ensuite lié à l'emploi des seniors. On a actuellement un sujet qui est...
Et puis, avec quand on retarde l'âge de la retraite, forcément, il va quand même falloir trouver un emploi à toutes ces personnes.
Exactement. Donc, il faut... je pense que les choses vont aller beaucoup mieux, mais on a beaucoup de progrès à faire pour organiser l'entreprise, pour qu'elle valorise l'expertise des seniors, pour qu'elle ajuste aussi les parcours, qu'elle continue à former des seniors et pour éviter cette situation qu'on connaît aujourd'hui, où toute personne qui a plus de 50 ans est la personne qui ne se forme plus, qui est trop payée, qui est inemployable, qu'on essaie de sortir dès que possible, etc. Bon, c'est exactement l'inverse d'une société inclusive, donc il y a évidemment beaucoup de sujets. On a un sujet ensuite sur... l'acceptation d'une certaine diversité dans l'entreprise. On recrute en général dans les communautés qu'on connaît, on recrute sur les territoires qu'on connaît, on recrute sur des générations qu'on connaît, et on a besoin aussi de s'ouvrir un peu les chakras et d'aller chercher dans d'autres communautés des nouvelles recrues. Voilà. Et ensuite de faire travailler les gens ensemble. Là, je pense qu'on a un beau challenge aussi à relever pour accueillir une certaine diversité. Alors, actuellement, on pense beaucoup à la diversité de genre, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de communautés différentes. Je pense notamment à la question de l'impact social de l'entreprise sur son territoire. Il y a la question de l'impact aussi de l'entreprise sur certaines populations qui sont exclues du monde du travail ou même de la dynamique professionnelle.
Et puis surtout, en général, c'est une spirale infernale. Une fois que tu es exclu, tu es encore plus exclu.
Exactement. Et en ce moment, on est en train d'arriver à ce moment assez joyeux, finalement, où le niveau de chômage qui baisse fait qu'on va devoir, par intérêt pour l'entreprise, recruter de toute façon des gens qui sont peut-être moins employables que ceux qu'on recrutait il y a quelques années.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Exactement.
C'est une très bonne nouvelle. Mais moi, j'ai aussi bon espoir qu'avec les nouveaux métiers, des métiers beaucoup plus axés sur le développement durable, justement, il y ait de nouvelles formations, de nouvelles vocations et qu'on ait... En fait, qu'on soit davantage aligné, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un schéma qui a quand même du mal à bouger, qui est assez figé. On a beau avoir l'impression, et puis moi, c'est vrai que comme je suis beaucoup avec des entrepreneurs, etc., j'ai l'impression qu'on bouge, mais pas tellement. Quand on regarde les entreprises, ça bouge pas des masses. Donc, mais c'est bien que tu insuffles cette dynamique, c'est bien que tu les accompagnes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, pour les prochaines années à venir ?
Que la prise en compte, finalement, de l'humain au travail soit beaucoup plus important dans les entreprises que dans l'équilibre entre l'économique et le social, on trouve une balance correcte et que l'entreprise puisse contribuer finalement à une démocratie sociale un peu apaisée, un impact social un peu sympa.
Non, mais j'aime bien ta phrase, à l'impact social un peu sympa.
Ah oui, c'est-à-dire que l'entreprise a des leviers qui sont quand même extraordinaires. Ouais. Elle a à la fois de l'argent, elle a du talent.
C'est pour ça que moi, j'ai quand même du mal à exclure, bon, sauf celle dont je te parlais juste avant off, certaines entreprises. C'est-à-dire, OK, elles sont pas terribles. Enfin, pour certaines, c'est même des chaos. Mais elles emploient tellement de monde. Elles donnent du sens à certaines personnes, finalement. Ouais. C'est compliqué, en fait, d'exclure. Je suis plus sur partisane d'essayer d'inclure et de transformer plutôt que d'exclure certains moyens de fonctionnement. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi en les accompagnant.
Moi, mon métier, c'est de travailler le réel. C'est de transformer l'entreprise, la réalité de l'entreprise, la réalité du travail et parfois se satisfaire de petits progrès. Et ce n'est pas grave. Il vaut mieux progresser dans la bonne direction plutôt que qu'exclure des gens qui, parce qu'ils partiraient de plus loin, finalement, n'auraient aucune chance de réussir. Dans mon domaine, moi, je gère des situations extrêmement graves de suicides, de conflits, de grèves, etc. C'est pas grave, on va pas créer du jour au lendemain un paradis sur Terre, mais on va déjà aider des gens à travailler ensemble, trouver de la motivation, développer de la compétence, trouver aussi des sujets de lien social, parce que l'entreprise, c'est aussi un lieu où on crée du lien social, et on a besoin de lien social en ce moment, je crois. Donc, comment est-ce qu'on organise ça dans l'entreprise? On a organisé de manière subie un télétravail massif, parce qu'on n'a pas besoin en ce moment de revivre des moments ensemble. C'est ça qu'on essaie d'organiser.
Merci beaucoup. Merci. C'était une petite bulle de fraîcheur, parce que je suis contente d'aborder ces sujets-là, et puis avec toi qui es expert et puis très engagé. Donc merci, continue. T'as du boulot.
Hein. Merci.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.